Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Géopolitique consacrée à l'urbanisation du monde et aux défis auxquels les villes se trouvent confrontées. Puissant facteur de développement économique et de réduction de la pauvreté, l'urbanisation c'est aussi la vie dans les bidonvilles, les violences urbaines qui se développent parallèlement à l'augmentation des inégalités socio-économiques, la pauvreté, l'insécurité sociale liée à l'économie informelle, les pollutions liées à l'absence de système d'assainissement et leurs conséquences en matière de santé publique. Au XIXe siècle, 10% seulement de la population mondiale vivait en ville. En 2018, 55%. L'urbanisation devrait se poursuivre et continuer de transformer le visage du monde, particulièrement en Afrique et en Asie, puisque ces deux continents seront les plus concernés par la poursuite de l'urbanisation. Longtemps associée à la modernité, au développement et à l'amélioration des conditions de vie, l'urbanisation est aujourd'hui entourée de beaucoup d'incertitudes. Pour cette édition réalisée en partenariat avec la revue internationale Stratégique. Regard avec nos invités. Par téléphone depuis Grenoble, Pierre Bréchon, professeur émérite de sciences politiques à Sciences Po Grenoble et chercheur au laboratoire Pacte. Bonjour.
Bonjour.
En studio à Paris, Valérie Claire, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et membre du Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Bonjour.
Bonjour.
Et Jacques Véron, directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer par ces chiffres. 82% d'urbanisation pour l'Amérique du Nord, 81% pour l'Amérique latine, 74% pour l'Europe et 68% pour l'Océanie. Ces continents sont très largement urbanisés depuis la fin du XXe siècle. Situation différente pour les continents asiatiques et africains où l'urbanisation concerne en moyenne respectivement 50 et 43%. Que va-t-il se passer en Afrique et en Asie ces prochaines décennies? Est-ce que l'urbanisation est inéluctable, Jacques Véron?
Oui, je pense qu'elle est relativement inéluctable, sachant que l'Afrique et l'Asie sont en situation de retard d'urbanisation, d'une part, donc il y a un certain rattrapage, et d'autre part, ce sont quand même les continents où la population urbaine est de très loin la plus importante. Parce que quand on raisonne sur la part de la population vivant en ville, ce sont toujours les pays les plus développés qui émergent. Mais si on s'intéresse à la population urbaine, au nombre de citadins, le nombre de citadins est essentiellement, majoritairement, trois fois plus dans les pays du Sud. Donc aucun signe actuellement ne permet de penser qu'il y aura un vrai ralentissement de l'urbanisation.
Valérie Claire, un commentaire?
Cette urbanisation se fait beaucoup par ce qu'on appelle les quartiers informels, les bidonvilles, les quartiers précaires. Enfin, je reviendrai sur le mot après. Et je crois qu'il y a 25% des urbains, 1 sur 4, presque 1 sur 3, qui vit dans ces quartiers. Je pense qu'il faut mettre le chiffre, d'autant que la croissance urbaine va se faire surtout là.
Alors, effectivement, on y reviendra. Alors, peut-être je poursuis avec vous, Jacques Véron, en proposant à Pierre Bréchon d'intervenir à tout moment. Mais qu'est-ce que l'on peut dire, Jacques Véron, du lien entre urbanisation et développement? Est-ce qu'il est mécanique? Quelles sont les explications à l'intensité de l'exode rural? Et pour quelles raisons, finalement, quitte-t-on la campagne?
Alors, le premier élément auquel on peut penser, c'est la croissance démographique rapide dans un certain nombre de pays. Donc, croissance démographique rapide qui conduit à des partages de terres qui ne sont plus viables in fine, donc des départs. Aussi, je pense, l'attraction du modèle urbain qui est un élément important. On a associé longtemps l'urbanisation à la croissance économique, même autrefois à la civilisation, carrément. Aujourd'hui, on a toutes les raisons de penser qu'elle est relativement autonome. Donc, il y a un peu cette idée de rattrapage dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il y a parallèlement une espèce d'urbanisation autonome qui se fait, attraction des grandes villes, d'ailleurs, qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a eu des efforts de maîtrise. En Inde, par exemple, un plan quinquennal indien a essayé de favoriser le développement des villes moyennes, mais ça n'a pas marché du tout. Aujourd'hui, ce sont toujours les plus grandes villes du monde qui continuent de s'accroître, en dépit des problèmes qui sont posés en termes sociaux, du coût des logements, des déchets, des assainissements, enfin toutes les questions qu'on peut soulever. Ce sont quand même les villes les plus importantes, les plus grandes, qui continuent d'être attractives, entre guillemets, parce que le caractère attractif...
Alors, on poursuivra sur l'attraction du modèle urbain. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous évoquez quant à la croissance démographique. Est-ce que c'est important? Est-ce que l'urbanisation a, sur la démographie, un impact? Est-ce qu'elle fait l'urbanisation diminuer la démographie?
Oui. Oui, tout à fait, oui. D'abord, la fécondité est toujours inférieure en milieu urbain à ce qu'elle est en milieu rural. Donc, ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire le passage d'une fécondité forte à une fécondité faible, s'accompagne la plupart du temps de l'urbanisation. Alors après, il y a des niveaux différents. Toutes les villes ne sont pas égales de ce point de vue-là. Dans une ville d'Afrique, la fécondité est beaucoup plus forte que dans une ville asiatique, par exemple. Mais on n'a jamais vraiment des liens mécaniques. Vous me posiez la question tout à l'heure. La croissance démographique n'entraîne pas de manière mécanique l'urbanisation. Beaucoup d'effets vont intervenir.
Valérie Claire.
Je voudrais quand même signaler, quand on parle d'urbanisation, on parle de la quantité, la proportion des villes dans un pays. Et je voulais quand même signaler que dans tous les pays, la définition de la ville est différente. Et donc, on parle de choses très très différentes entre la France où une ville c'est à partir de 2000 habitants ou d'autres pays où c'est à partir de 50 000 habitants. Et donc, il y a des pays qu'on pense être ruraux, mais qui sont en fait beaucoup plus urbains qu'on ne le pense. La deuxième chose, c'est la croissance des villes. On parle évidemment de la croissance rurale urbaine, puisque dans les esprits de tous, la montée de l'urbanisation va avec la diminution de la part des non-urbains. Mais en réalité, la croissance des villes elles-mêmes, aujourd'hui, est très très largement liée à la croissance interne, c'est-à-dire les enfants de ceux qui vivent en ville et qui font croître les villes. Et aujourd'hui, de plus en plus, et je pense à l'Inde en particulier, la croissance d'une ville, d'une grande ville, en croissant spatialement, va absorber les villages qui sont autour, eux-mêmes étant devenus des banlieues et donc ayant aussi cru. Et donc, on se retrouve avec un phénomène de croissance urbaine, en fait, qui est multifacette. Et je voudrais, dernière chose, dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement les grandes villes qui sont les espaces de plus forte croissance, mais les villes petites et moyennes. Bon, je pense aussi là à l'Inde, où il y a des études sur la question.
Villes petites, moyennes, ça se situe, je sais que vous vous...
Justement,
vous
ça dépend.
Pierre Bréchaud, je vous passe la parole tout de suite après. 500 000 habitants,
voilà.
1 million...
500 000. Il y a la moitié en dessous de 500 000, la moitié au-dessus de 500 000.
Alors que pour les grandes métropoles, on est à plus de 10 millions d'habitants généralement. C'est cela qui définit, je parle sous votre contrôle,
tout à fait,
Jacques Véron. Alors, Pierre Bréchon.
Oui, ce que je voudrais souligner, c'est que, au fond, vous parlez pour les pays du Sud beaucoup de l'exode rural vers ces villes tentaculaires qui sont en forte croissance. Aujourd'hui, dans les pays du Nord, c'est un peu différent, puisqu'au fond, le phénomène d'exode rural, il a été très fort, je dirais, dans une large partie du XXe siècle. Mais à partir des années 1970 à peu près, au fond, le phénomène d'exode rural devient faible. Et ce qui devient fort, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'urbains retrouvent le chemin de la campagne. Et ce qui est le plus caractéristique des situations européennes, notamment de l'ouest de l'Europe, c'est, me semble-t-il, la rurbanisation et le fait que les échanges entre la ville et la campagne, la ville et le rural deviennent très étroits, puisque au fond, pour beaucoup de gens, on travaille à la ville, mais on a sa vie de famille et sa vie de loisirs dans un environnement plus rural. Et donc, au fond, la ville, je ne dis pas qu'elle n'a plus de croissance, mais très peu même. C'est plutôt les zones suburbaines qui ont cru depuis 30 ou 40 ans. Donc, de ce point de vue-là, il y a des modèles assez différents. Et ensuite, évidemment, il y a de grandes différences internes. Il y a des types de villes et des types de territoires ruraux qui sont aussi très différenciés à l'intérieur de nos vieux pays.
Cette évolution, Jacques Véron, des zones suburbaines, elle est propre aux pays du Nord ou elle est également une constante des pays du Sud ?
C'est plutôt ce dont parlait Valérie Claire, l'absorption des zones contiguës. Comme la croissance de la population se fait beaucoup de manière spatiale. Ce ne sont pas des immeubles avec des très fortes densités, donc des habitats précaires qui s'étendent de plus en plus. Donc ça renvoie aussi à la définition des villes dont il était question. Donc numériquement, on définit des seuils variables selon les pays, aussi avec des critères qui peuvent être différents. On peut considérer la part de la population qui vit hors de l'agriculture, par exemple. Oui.
Il y a des différences de définition statistique, en effet, de la ville et du rural, mais selon les pays. Mais en même temps, Ce que j'observe dans un certain nombre d'enquêtes, c'est que les gens ont leur propre définition, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dire s'ils se sentent vivre dans une grande ville ou sa banlieue, s'ils se sentent vivre dans une petite ou une ville moyenne, ou s'ils se sentent vivre dans un village ou une maison isolée. Donc il y a des autodéclarations qui ont un certain sens, je dirais, qui peuvent se comparer d'un pays à l'autre.
Alors, l'historien, après ça on va parler des bidonvilles et je me tournerai vers vous Valérie Claire. Avant cela, juste pour comprendre, puisqu'on parlait de tailles différentes de villes, l'historien de l'économie Paul Berroche posait la question de la taille des villes et le lien entre celle-ci et la qualité de vie des habitants. Qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus, Jacques Véron ?
Il y a eu beaucoup de réflexions, enfin lui en particulier, sur l'existence d'une taille optimale des villes et considérer le bien-être des populations, la qualité des services, la pollution, les différents types de nuisances, la violence, etc. Et lui est arrivé à un optimum des villes qui était entre 300 et 600 000 habitants, en gros. Donc on est pour la plupart, la moitié de la population du monde, on est au-dessus de ce seuil, si tant est qu'il existe. Alors, ces réflexions, il ne faut pas les pousser à la limite, mais on peut effectivement se poser la question d'une taille, disons, souhaitable d'une ville, ou à l'inverse, dire est-ce que le fait que des agglomérations urbaines augmentent à l'infini, est-ce que c'est positif et est-ce que c'est souhaitable ?
Alors, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse par rapport à cela. Je voudrais qu'on parle des bidonvilles, Valérie Claire. Depuis que les bidonvilles et les quartiers précaires existent, les pouvoirs publics cherchent à les faire disparaître et en arrêter la croissance. Les Nations Unies ont, dès 1976, je parle sous votre contrôle, invité les politiques à reconnaître cette urbanisation, à la réhabiliter, la régulariser, l'anticiper. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Quelles sont les politiques sur les bidonvilles ?
On a fait énormément de choses depuis, même bien avant 1976. L'ONU a commencé à parler de logements inadéquats en 1965, a utilisé le mot slum en 1970. Mais même avant ça, les historiens montrent les politiques au 19e siècle, au début du 20e, je vais y revenir. Ou même, je vais vous le dire tout de suite, en fait. Parce que quand on parle de politique, on dit, bon, il y a une croissance incontrôlée comme ça, des bidonvilles, et on cherche à résoudre le problème, Mais en réalité, il faut s'interroger sur ce que c'est qu'un bidonville. Est-ce que c'est quelque chose qui existe en soi ? Quand on regarde en arrière, on s'aperçoit en fait que c'est une catégorie, c'est un mot. On dit bidonville, on dit quartier précaire, on dit quartier informel. Ce sont des mots qui sont utilisés par vous, les journalistes, par nous, les chercheurs, par l'ONU, etc. Mais en fait, c'est une catégorie qui est extrêmement difficile à définir, que l'ONU n'a définie qu'en 2002, et avec grande difficulté, et qui en fait recouvre tout un tas de situations qui sont locales, et qu'on appelle favela, mocambo, ashwayat, mukhalafat, juju, et on pourrait finalement donner une définition qui serait en fait que ce sont des espaces, des quartiers qui sont en dehors des normes institutionnelles locales. Et quand je dis qu'elles sont en dehors des normes institutionnelles locales, elles sont hors normes, ok, mais hors normes locales. Ça veut dire que c'est localement que ces normes ont été définies. C'est-à-dire, la loi a défini ce type d'habitat est interdit. On n'a pas le droit de faire comme si, on n'a pas le droit de faire comme ça, on n'a pas le droit de squatter, on n'a pas le droit de construire en dehors des normes. Et en fait, il faut repenser cette idée que d'abord il y a les bidonvilles, ensuite il y a les politiques qui essaye de faire quelque chose avec cet espace qui lui échappe, c'est-à-dire l'idée qu'on court après, que l'urbanisme court après cette ville qui se fait sans urbanisme, c'est l'espèce de paradoxe qui fait que en fait l'urbaniste doit repenser sa façon de faire puisqu'il y a une grande partie de la ville qui lui échappe et après laquelle elle court. Et en fait, pour donner un exemple, je dirais la catégorie bidonville, en fait, elle se fabrique. Pas, c'est une catégorie de l'action publique. C'est-à-dire, c'est, par exemple, en 1937-38, à Recife, au Brésil, pour reprendre un exemple d'un historien qui a travaillé là-dessus, une historienne, Brodwin Fischer, on avait des petites maisons en paille qui s'appelaient les Mocambo. C'était évidemment les plus pauvres des habitants qui habitaient là. Et puis, on était dans une période où on avait un désir de modernité, d'urbanisme, il y avait une forte urbanisation. Et ces maisons étaient aussi le lieu où qui était le plus d'insalubrité, de mortalité infantile. Et donc, au lieu de décider d'enlever la précarité de ces espaces, ils ont préféré supprimer les quartiers précaires. Et donc, ils ont décidé, ces maisons-là, normalement, on n'a plus le droit, désormais, de construire en paille. avec ce type d'habitat-là. Et donc, ils ont créé une catégorie de maisons, au départ de maisons, puis ensuite de quartiers, parce que c'était des petits quartiers, qui étaient devenus interdits. Mais les gens, ils n'avaient pas les moyens de s'acheter ou de construire des maisons en briques ou en béton. Et donc, de fait, cette catégorie désignée, quoi, ce type de maison, on n'a pas le droit de, eh bien, ça a créé la catégorie Mocambo, qui était une catégorie, une des catégories qu'on désigne par quartier précaire ou slum. Donc, juste pour dire que cette catégorie de l'action publique, elle concerne l'urbanisme. Ça, c'est un exemple pur. C'est juste une règle d'urbanisme qui a créé un type de quartier. Et que l'autre grande catégorie de quartier précaire se fait avec la question foncière. Le Cambodge, pour donner un exemple très rapide, parce que là, il n'y avait pas de règles d'urbanisme au début des années 90. Eh bien, entre 89 et 80 et 2000, disons, on a, après les épisodes malheureux que vous connaissez, donc des Khmers rouges, puis ensuite vietnamiennes, socialistes vietnamiennes, où la terre appartenait à l'État, etc., on a réintroduit la propriété privée. Et donc, toutes les personnes qui habitaient quelque part et avaient une autorisation de résidence ont pu demander la propriété privée de l'espace qu'ils occupaient, bon, selon un certain nombre de critères. Eh bien, on avait la totalité de la population qui était propriétaire, qui avait fait une demande de propriété à ce moment-là. 10 ans plus tard, avec la réintroduction donc de la propriété privée, qui n'était pas assortie de politique de protection sociale, la propriété privée étant à la fois un espace d'usage et un espace, un bien qui permettait de financer d'autres choses, la santé ou autre chose, on se retrouve 10 ans après avec de nouveau des centaires, des bidonvilles, des grands propriétaires fonciers, des locataires. Il y a un lien entre la généralisation dans le monde entier de la propriété individuelle telle qu'on la connaît en Europe, et je pense qu'en Afrique ça a beaucoup de résonance parce que les tenures foncières sont très variées et cette superposition entre liée à l'introduction de la propriété privée est largement responsable de la croissance des quartiers précaires.
Alors, généralisation de la propriété privée, l'autre élément, je me tourne vers vous, Jacques Véron, c'est la question de la financiarisation. On construit pour le profit, pas pour loger les habitants. Alors, on évoquait au début de l'émission, et on peut poursuivre là-dessus, l'urbanisation en Afrique et en Asie, qui sont les continents les moins urbanisés aujourd'hui. Finalement, pour ces régions, les défis de l'accroissement de l'urbanisation vont être absolument énormes.
Oui, tout à fait. Les questions d'assainissement. Alors, effectivement, la question foncière, elle est très importante. Et on voit bien quand il y a des opérations de développement comme à Delhi où on a construit le métro. Donc déjà, il y a des terrains qui ont été gelés pour la construction du métro. Mais aussi, on va faire un système de transport qui sera pas forcément accessible à tous, qui entrera en compétition avec les rickshaws. Donc toute cette question de l'accès à l'espace avec le... Il y a les bidonvilles, on le voit bien. À Bombay avec le grand bidonville de Dharavi, la compétition qu'il y a pour la terre. Et finalement, quand il y a des opérations d'assainissement, de reconstruction, les gens qui vont pouvoir accéder à ces logements, ce ne sont pas ceux qui y étaient, ce sont des nouvelles personnes. Donc toute cette imbrication entre un urbanisme moderne et des populations qui ont des statuts plus que précaires, ça c'est vraiment quelque chose que doivent gérer les grandes villes du Sud et qui est un vrai défi parce qu'il suffit pas de construire, il faut, comme vous disiez, il faut construire et que les gens aient accès. Et alors peut-être juste une question annexe, qui, enfin pas tout à fait annexe, mais qui est que si on construit ailleurs, les gens vont pas forcément vouloir y aller, même s'ils ont accès, parce que toute leur vie, et leur commerce, leurs activités sont très près, par exemple, du centre de la ville. Donc ils vont préférer être dans des situations précaires dans le centre de la ville, parce qu'ils n'auront pas les moyens de se déplacer, de prendre des transports, etc. Donc il y a quand même des défis liés à l'espace, purement à l'espace, et à l'accès et à la pérennité de l'installation, qui sont très importants.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Jacques Véron, Valérie Claire et Pierre Bréchon après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur l'urbanisation du monde et les défis auxquels les villes se trouvent confrontées. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Grenoble, Pierre Bréchon, professeur émérite de sciences politiques à Sciences Po Grenoble et chercheur au laboratoire PACT. En studio à Paris, Valérie Claire, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et membre du Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Et Jacques Véron, directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques. Jacques Véron évoquait à la fin de la première partie, les défis liés à l'espace, bien sûr. Pierre Bréchon, en France comme ailleurs, la mondialisation a renforcé les emplois et les revenus des métropoles. La moitié environ du produit intérieur brut en France est produit dans les 10 premières villes du pays, dont un tiers pour la seule région parisienne. On a longtemps opposé les représentations de la ville, lieu de modernité et de progrès, au rural, qui serait celui des traditions et des conservatismes. Le clivage entre centres urbains et territoires ruraux est-il toujours pertinent ?
Il n'a pas complètement disparu, mais il est aujourd'hui quand même très relatif. C'est-à-dire que, en effet, il y a davantage de richesses dans les grandes villes que dans les zones rurales en moyenne. Mais vous savez que les moyennes, c'est la meilleure des choses et la pire. Il faut déconstruire les moyennes et en fait, il y a des villes très riches, il y a des villes beaucoup plus en difficulté. Il y a du rural très dynamique et il y a du rural en voie de désertification ou désertifié. Donc au fond, la catégorie simplement urbain-rural pour appréhender des différences de type économique n'est pas très pertinente au fond parce que il faut regarder dans chaque zone géographique ce qu'il en est. Par rapport à la mondialisation, il est certain qu'il y a des zones dont on peut dire qu'elles sont gagnantes de la mondialisation. Les échanges ont été dynamisés par la mondialisation. Et il y en a d'autres où on peut dire qu'on a surtout des perdants de la mondialisation et donc des gens qui vont être davantage frustrés par rapport à cette situation de perdant de la mondialisation. Mais ça ne recoupe pas exactement le clivage urbain-rural, puisque, au fond, si vous regardez le bord de mer méditerranéen, le long de la frontière de l'Est, les territoires de vignobles, vous avez des zones qui sont plutôt rurales et qui sont très riches. Il y a du rural pauvre, désertifié, il y a du rural riche, et dans les villes, c'est un peu la même chose. Il y a des villes où les habitants, une bonne partie des habitants souffrent beaucoup parce que les taux de chômage y sont très élevés, par exemple, et les taux de pauvreté peuvent y être très élevés. Il y a des régions françaises où le taux de pauvreté est à 15% et d'autres où il est à 8%. Donc évidemment, c'est du simple au double.
Alors, il n'en demeure pas moins que les grandes villes comportent plus de personnes ayant fait des études supérieures, qui sont cadres, oui, ont des revenus plus élevés et se positionnent plus haut sur une échelle figurant la société. Le mouvement que connaît la France depuis plusieurs semaines, le mouvement des Gilets jaunes, il est venu, Pierre Bréchon, mettre en avant, entre autres, la nécessité d'organiser les interdépendances entre les espaces denses et moins denses. Il s'agit là presque d'un devoir de cohésion, d'une certaine manière, et surtout une voie de croissance, là aussi, Pierre Bréchon.
Alors, c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes a été plus marqué dans les territoires ruraux que dans les territoires urbains, mais là encore, c'est les territoires ruraux les plus en difficulté qui se sont le plus mobilisés, c'est-à-dire que c'est il y a une demande, je dirais, de niveau de vie, de pouvoir vivre, qui est très forte dans ces territoires ruraux, qui sont relativement, qui se sentent défavorisés, qui se sentent un peu abandonnés, et donc ça c'est tout à fait typique d'un certain type de zone rurale et de zone de ville petite ou moyenne. C'est pas que les périphéries, hein. Il y a des centres-villes, de villes moyennes qui ont beaucoup de difficultés. Et dans le mouvement des Gilets jaunes, les catégories sociales populaires sont très représentées et également les petits commerçants et artisans qui se sentent parfois laminés dans des centres urbains en difficulté.
Jacques Véron, on s'est longtemps imaginé qu'il y avait une bonne urbanisation qui se situerait au nord, une mauvaise au sud. Qu'est-ce qu'il faut penser de cela et la façon dont ça a évolué?
Ben oui, je pense que la distinction entre nord et sud, de ce point de vue-là, tend à s'atténuer, parce qu'on voit quand même des problématiques qui sont communes, notamment la précarité, on en a peut-être parlé tout à l'heure, dans des grandes villes. Les situations de précarité se sont multipliées. À New York, c'est quand même tout à fait remarquable, dans une des villes les plus riches du monde. Et par ailleurs, les villes, qu'elles soient au nord ou au sud, sont confrontées quand même à des problèmes communs qui sont la pollution, la production de déchets, le modèle de consommation qui est en vigueur. Parce que quand on a commencé à s'intéresser à la pollution atmosphérique des villes, on l'a plutôt vu au nord et apparaître, et finalement aujourd'hui on la voit au sud de la même façon, avec des raisons différentes, mais le résultat est le même. Donc il y a quand même un certain nombre de problématiques qui sont communes, je trouve, aujourd'hui au nord et au sud. Donc le modèle du nord n'est pas un modèle qui est resté à un modèle, puisque les inégalités se sont beaucoup développées au sein des grandes villes.
Alors, élément commun entre le Nord et le Sud, Valérie Claire, il y a des bidonvilles dans les villes du Nord.
Ah, le bidonville n'est pas une catégorie du Sud. La première fois qu'on en a parlé, c'était à Londres. C'est une catégorie qui est commune au Nord et au Sud, même si, selon les périodes historiques, il y en a plus ou moins au Nord et au Sud. Je dirais aussi que c'est une catégorie qui n'est pas du tout homogène. L'image du bidonville extrêmement précaire, insalubre, faite de cabanes sur des terrains squattés, c'est pas du tout la réalité du milliard de personnes concernées, parce qu'on a aussi des terrains achetés, construits de façon irrégulière, mais des immeubles de cet étage en briques, comme par exemple en Égypte ou en Syrie. Et si on prend vraiment la définition même de l'espace qui n'est pas aux normes, ben, il y a des quartiers de villas riches qui sont... il y a certaines personnes dans des pays qui m'ont dit « Mais pourquoi est-ce qu'on ne traite pas de la même façon l'irrégularité urbaine riche ?» Je pense que l'incrémentalité, si on peut définir les quartiers informels comme des espaces incrémentaux.
Incrémentaux,
je dirais, qui se construisent à mesure. C'est-à-dire que la planification va commencer par faire un plan, puis dessiner des rues, dessiner des parcelles, donner des titres aux parcelles, vendre les parcelles, construire un immeuble, vendre l'appartement, et finalement, au bout du compte, les gens s'installent. Incrémental, c'est l'inverse. La personne, elle s'installe, puis elle construit un abri. L'abri est incrémental lui-même, c'est-à-dire que plus ça va, plus il va s'améliorer. Et c'est justement une des qualités de ces espaces, parce que c'est pas que des espaces négatifs, c'est aussi des vraies solutions, ces espaces. Et puis ensuite, ils vont lutter pour avoir de l'eau, d'électricité, des infrastructures, puis peut-être une régularisation, puis peut-être finalement être intégrés au plan. Les villes incrémentales, les villes anciennes, elles étaient toutes comme ça. Et en fait, depuis qu'on a l'urbanisme, depuis 150 ans que l'urbanisme s'est généralisé, on a simplement une partie de l'urbanisation qui a échappé à ce mouvement énorme de l'urbanisme et qui a continué à se développer de façon incrémentale à côté. Et ce qui fait que ce sont des villes qui ont énormément de qualité. Les gens ont des compétences, un savoir-faire la ville qui est incroyable. Et quand je dis savoir-faire la ville, j'insiste sur le mot ville, parce que souvent on voudrait donner des réponse en termes de logement à des questions qui sont d'autres urbains. Et je reviens sur ce que disait Jacques Véron, c'est-à-dire qu'une personne qui s'installe à un endroit, elle s'installe pas dans un logement, elle s'installe à un endroit, c'est-à-dire elle va faire le calcul de quel temps de transport pour aller à tel endroit. Et comme nous tous, enfin, je veux dire, on choisit pas un logement. Ce qui fait que quand on reloge des gens ailleurs, à 20 kilomètres sur des terrains lointains de banlieue, bah les gens souvent ne restent pas parce que, par exemple, le coût du transport va absorber l'intégralité du travail qui, lui, reste en ville. Et donc, il faut vraiment penser ces espaces comme des espaces urbains, qui sont d'ailleurs parfois plus durables, je dirais, entre guillemets, que les espaces formels, hein, par exemple, des grandes tours en verre et des petites maisons qui sont compactes, avec des rues ombragées, piétonnes. Quel est le quartier qui est le plus facilement transformable en quartier durable? Je pose la question et voilà.
Jacques Véron, un commentaire sur ce que...
Justement, ça renvoie à la question des villes durables. On a dit la ville compacte, enfin, on a essayé de définir des caractéristiques des villes durables. Effectivement, on voit que le logement et le type de logement, et d'ailleurs, dans le cas des catastrophes naturelles, s'il y a des tremblements de terre, c'est pas les mêmes immeubles qui vont être adaptés. Donc, pour revenir peut-être sur votre idée de modèle, il n'y a pas un modèle unique, et en tout cas, on ne sait pas trop le définir. Moi, je pense qu'il y a une question qui est très importante dans les grandes agglomérations urbaines, c'est le fait de ne pas arriver à reconstituer des espèces de sous-villes. Finalement, du fait des temps de transport, on a un peu deux catégories de gens, des gens qui retrouvent une espèce de village en restant, et c'est plutôt les privilégiés, puis ceux qui ont des temps de transport considérables pour aller travailler. Et là, il y a vraiment un type d'inégalité, je trouve, dans les pays développés, qui progresse, je trouve, et qui, je pense, limite le bien-être des citadins.
Pierre Bréchon, vous souhaitez intervenir ?
Il me semble quand même que par rapport au problème de bidonville, d'habitat spontané, quel que soit le terme qu'on emploie, les situations sont quand même très différentes par rapport à certaines grandes villes du Sud et par rapport à ce qu'on connaît en Europe. Il me semble que, par exemple pour la France, le problème qu'on a est moins celui de quartiers plus ou moins bien délimités avec des fortes zones où tout l'habitat serait non légalisé. Ce qu'on a, c'est plutôt un problème d'accès au logement et au logement de qualité. Donc il me semble que de ce point de vue, on a des gens qui n'arrivent pas à avoir accès à l'emploi, au logement. Donc on a des zones, on a des problèmes de réfugiés, on a des problèmes de mal logés ou de non logés, et on a donc des squats, on a des gens qui vivent sous la tente, on a des sans domicile fixe. Donc ça, c'est un problème qui touche des nombres de gens non négligeables, mais c'est surtout dans les grandes villes, en effet. Mais ça fait moins un problème autour de grandes zones de slum ou de bidonville.
Alors, Valérie Claire, j'aimerais peut-être rebondir sur ce que vient de dire Pierre Bréchon. Il y avait un article récent paru dans le Monde, le quotidien français, qui évoquait qu'en 2015 à Paris, le taux de pauvreté était de 16,1%. Et il y aurait à Paris, même si le chiffre, bien évidemment, est difficile à établir, plus de 10 000 personnes sans domicile à Paris. Est-ce que cela inclut aussi la question des migrants ou pas ? L'une des problématiques des villes, que ce soit les villes du Nord, les villes du Sud, c'est cette question aussi des logements vides d'un côté, dans des proportions plus ou moins importantes, et de l'autre, des quartiers informels.
Oui, je pense que c'est une des choses qui est les plus, j'allais dire visibles, mais il faut le montrer aussi. Effectivement, à Paris, on a de nouveau des bidonvilles, de même qu'en Espagne, en Italie. Aujourd'hui, on a de plus en plus, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une valeur d'usage pour un logement, une valeur liée au fait que si on habite là, on met cette valeur-là. Et puis, il y a aussi une valeur financière du logement. Voilà, si j'achète un appartement, je pourrais le revendre et me servir de cet argent. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus d'investisseurs qui investissent dans du logement pour le revendre, et progressivement ça rentre dans les produits financiers. C'est ce qu'on appelle la financiarisation, hein. Ça devient un produit financier. Mais on se retrouve finalement dans des villes où on peut avoir 50% de logements vides, par exemple à Dubaï il y a une dizaine d'années, ou des dizaines de milliers de logements vides en Syrie avant 2011, alors que dans le même temps, on a une extension de la ville non planifiée, qui se construit de façon irrégulière sur les zones agricoles. Et il y a quelque chose d'indécent dans l'urbanisation aujourd'hui, qui se fait d'une part avec cet imaginaire de la ville, ouais, c'est l'image de Dubaï, on va construire des grands immeubles, on va investir, on va faire une ville hyper moderne. Et puis à côté de ça, des gens qui peuvent pas accéder à ça, et puis de toute façon ce sont pas des logements construits pour eux, et qui se retrouvent à devoir chercher des logements à la mesure de leurs moyens. Alors on a quand même quelque chose qui est assez récent, qui n'a qu'une quelques années, je dirais, ou peut-être une dizaine, qui est du logement de masse pour personnes à faible revenu, notamment au Mexique, au Brésil. Alors là, ça pose d'autres types de problèmes, parce que justement, on se retrouve avec des quartiers à 10 000 logements qui, justement, sont surtout des solutions de logement, mais qui ne prennent pas en compte du tout l'urbanité de ces espaces. Voilà.
Est-ce qu'il y a... Enfin, on a parlé des bidonvilles, problématiques liées aussi bien aux villes du Sud qu'aux villes du Nord. Est-ce qu'il y a une solution par rapport à ces bidonvilles et de nouvelles
possibles façons de considérer les politiques face aux bidonvilles. Je ne sais pas qui souhaite répondre, Valérie Claire.
On n'a pas de solution, puisque solution voudrait dire que c'est un problème. Mais il y a des nouvelles façons de faire la ville. Oui, il faut sortir de cette façon traditionnelle de faire de l'urbanisme pour voir l'autre ville, comment elle se fait. Si c'est une question de normes par rapport aux normes d'urbanisme, aujourd'hui, il y a des urbanistes qui pensent à comment planifier l'informel, c'est-à-dire comment donner des grandes orientations pour les villes. Il faut anticiper, et pour anticiper, ça peut être créer du logement, mais c'est aussi anticiper, permettre aux personnes de s'installer. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la question foncière. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent sur qu'est-ce que c'est que les communs fonciers, et on a plusieurs expériences, notamment à Quito ou au Brésil, de comment faire des terrains communautaires. On a la différenciation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ONU ne parle plus de slum, mais de slum and informal settlement. Ils ne définissent pas la différence, mais c'est bien qu'on voit bien qu'il y a une différence entre des taudis, où il faut vraiment faire quelque chose, et puis la ville qui se fie elle-même. Et là, comment l'accompagner? Et puis surtout, aujourd'hui, il y a des associations d'habitants de bidonvilles qui se mettent en fédération. Donc, par exemple, la Fédération Slum Dweller International, ils sont 14 millions dans le monde, et eux disent, mais nous, on sait ce qu'il faut faire pour améliorer notre ville, que nous avons fait, et nous avons besoin de la puissance publique travailler avec eux. Et donc, notamment par le biais de l'ONU et certaines municipalités, notamment en Afrique, il y a beaucoup de projets qui travaillent avec les habitants, et c'est pas seulement juste la participation, faire participer les habitants au projet des institutions, mais bien que les institutions se mettent au service de ce que désirent les habitants.
Jacques Véron.
Oui, moi je pense que il y a une question importante à mes yeux, qui est, pour revenir un peu à ce qui a été évoqué en début d'émission sur la relation avec le développement passe avec de l'urbanisation quand même dans un certain nombre de pays du Sud, et aussi l'émergence d'une classe moyenne, et à la faveur de ces évolutions, il y a un risque d'accroissement des inégalités qui est fort. Donc je pense que vraiment un des grands défis des villes au Nord et au Sud, c'est la question des inégalités. Et la deuxième question, c'est celle de la cohésion sociale au sein des villes, qui n'est pas une séparation de groupes. Donc, de maintenir des relations minimales, de pas aller vers un individualisme effréné. On sait que, de toute façon, les mouvements sont ambivalents. Je veux dire, on a toujours tendance à opposer ville-campagne. Autrefois, les gens étaient solidaires, aujourd'hui, ils sont individualistes, etc. On voit bien que ça marche pas.
C'est vraiment faux.
Oui, c'est vraiment faux. Les relations sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus ambivalentes que ce qu'on peut dire. Mais la question des inégalités de manière générale est quand même une question, justement, qui, parce qu'elle est associée à toute cette idée de frustration. On peut améliorer le bien-être de tout le monde, mais si on l'améliore beaucoup plus pour une certaine catégorie, il peut y avoir des frustrations en dépit d'une amélioration du sort des individus. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on connaît beaucoup aujourd'hui avec la mondialisation qui véhicule des modèles à l'échelle planétaire.
Pierre Bréchon.
Oui, je suis parfaitement d'accord sur l'importance des inégalités qui posent des problèmes de cohésion sociale. Et par rapport à ces inégalités, et évidemment, les politiques sociales qu'on fait pour les plus pauvres sont un élément assez capital, mais également le problème de l'emploi est tout à fait fondamental. Au-delà donc des politiques sociales, il y a un problème d'accès à l'emploi qui génère derrière, d'accès à l'emploi et d'accès à un revenu décent, qui génère toute une série de problèmes. Et quand les inégalités de salaire sont trop criantes, et bien ça donne des mouvements sociaux.
Merci, c'est la fin de Géopolitique, une édition réalisée en partenariat avec la Revue Internationale et Stratégique pour son numéro consacré à l'urbanisation du monde sous le titre « Les villes au défi ». Merci à Pierre Bréchon qui était avec nous par téléphone depuis Grenoble. Pierre Bréchon qui est professeur émérite de sciences politiques à Sciences Po Grenoble et chercheur au laboratoire Pacte. En studio avec nous à Paris, Valérie Claire, chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement et membre du Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, et Jacques Véron, directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Nathalie Laporte. À samedi prochain.